Le premier journal de la soirée qui ouvre le bal, il est signé Estelle Schmitt. Bonsoir Estelle.
Bonsoir.
L'essentiel de ce mercredi 30 octobre commence avec des annulations au Chili.
Le Chili qui renonce à organiser la COP25 sur le climat début décembre à cause du mouvement de contestation dont soit Santiago dès le début de ce journal. Emmanuel Macron est à Rouen un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, visite presque surprise et rencontre avec la population. Le président de la République qui accorde un long entretien à l'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles, immigration, voile, communautarisme, décryptage dans ce journal. Des mesures pour combattre les violences d'extrême droite en Allemagne, notamment sur les ventes d'armes et les discours haineux sur Internet. La mort de la mère d'une des victimes du double meurtre de Montigny-lès-Metz pour lequel Francis Holm a été condamné, le combat de sa vie. Et puis le foot et l'OM, le moral dans les chaussettes qui compte sur un match de la Coupe de la Ligue ce soir face à Monaco pour oublier sa sévère défaite face au PSG.
À 18h15, un jour dans le monde, dans la tête de Mark Zuckerberg, ce soir qui peine à imposer Libra, sa crypto-monnaie. Le congrès lui est tombé dessus la semaine dernière aux États-Unis. L'Europe n'est pas plus tendre. Est-ce que Zuckerberg est en train de payer l'addition des multiples controverses autour de Facebook? C'est la question. Notamment qu'on posera à notre invité. Le bruit du monde est en Suisse ce soir où un passé ressurgit. Je vous laisse découvrir ce que ça veut dire. Et puis 19h20, le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert. On parle indemnisation chômage ce soir. Les nouvelles règles entrent en vigueur vendredi, après-demain, et c'est de la dynamite. Indépendants, salariés, démissionnaires, quels sont désormais vos droits? Et puis l'ouverture aux droits plus stricts désormais, la dégressivité plus rapide pour certains salaires. Ça vous concerne, ça nous concerne tous et ça se passe au 0 45 24 7000.
France Inter.
La COP25 n'aura donc pas lieu cette année au Chili.
La conférence mondiale sur le climat qui devait se tenir à partir du 2 décembre, mais également l'APEC, le sommet du forum de coopération économique Asie-Pacifique prévu le mois prochain à Santiago, annonce du président chilien Sébastien Piñera cet après-midi et conséquence du mouvement de contestation qui agite le pays depuis une dizaine de jours. Maintenant, manifestation quotidienne dans plusieurs villes à Santiago, Justine Fontaine.
Avec une grande douleur, dit-il, Sébastien Piñera a pris acte du fait que les conditions ne sont pas réunies pour assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité pendant la COP25, la conférence de l'ONU pour le climat, qui devait se tenir début décembre à Santiago. Est annulé aussi le sommet de l'Alliance commerciale Asie-Pacifique, l'APEC, initialement prévu mi-novembre.
Sentimos y lamentamos profundamente.
Nous nous excusons et nous regrettons profondément les problèmes et les inconvénients que cette décision va signifier, aussi bien pour la PEC que pour la COP. Mais en tant que président de tous les Chiliens, je dois, en toutes circonstances, donner la priorité aux problèmes et aux intérêts des Chiliens, à leurs besoins, leurs aspirations et leurs espoirs.
Alors que des manifestants commençaient à se réunir une nouvelle fois dans les rues de la capitale, plusieurs parlementaires ont réagi à l'annulation de ces deux sommets internationaux. Pour un député de droite, soutien du gouvernement, le Chili doit effectivement résoudre cette crise sociale avant de pouvoir recevoir ce type d'événement. Des députés de l'opposition de gauche, eux, ont appelé à ne pas oublier les demandes environnementales des Chiliens, notamment hors de la capitale. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Et aux États-Unis, la Maison-Blanche s'est dite prise par surprise après l'annulation du sommet de la PEC. Il était présenté, ce sommet, comme une occasion de signature par les présidents américains Trump et chinois Xi Jinping de la phase 1 d'un accord commercial. Des manifestations et des violences depuis des jours également en Irak. Le sort du Premier ministre entre les mains de ses partenaires au Parlement. En ce moment, il négocie sa démission. La rue, elle demande toujours la chute du régime. Au moins 240 personnes sont mortes depuis le début du mois.
Et Emmanuel Macron est à Rouen en ce moment.
Oui, arrivé il y a moins d'une heure, le déplacement n'était pas à l'agenda du président de la République. Mais après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol il y a un mois, il avait promis d'y aller. Emmanuel Macron à la rencontre des habitants, alors que l'inquiétude est toujours forte, et du maire de la ville également. Aucune visite du site n'est en revanche prévue. La mission d'information de l'Assemblée nationale sur Lubrizol, elle poursuit ses auditions. Cet après-midi, elle entendait le préfet de Normandie, Pierre-André Durand, a notamment plaidé pour un système d'alerte aux populations plus modernes. En clair, des textos sur les téléphones portables plutôt que des sirènes.
Nous ne pouvons plus gérer des crises du XXIe siècle avec un outil du XXe siècle. Je ne veux pas vous tenir un discours anti-sirènes. Les sirènes ont des vertus. Enfin, je rappelle juste qu'elles sont quand même issues de la défense passive des années 30. Bon. Est-ce que, franchement, on peut se dire que tous nos concitoyens, lorsqu'une sirène sonne, par exemple dans une circonstance telle que nous l'avons vécue, savent quelle est la conduite à tenir? Évidemment que non. Moi, je crois qu'il nous faudra passer au système dit cell broadcast, qui permet simplement, par le bornage des téléphones portables, d'envoyer d'office des messages à tous les téléphones qui dépendent d'une zone. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Je dirais même dans des milieux très modestes, où le téléphone portable est quand même aujourd'hui très répandu, ce système-là serait vraiment le moyen d'avoir une information et une alarme du citoyen parfaitement calibrée. Voilà. Et en plus en temps réel.
Pierre-André Durand, le préfet de Normandie, Emmanuel Macron est donc ce soir en ce moment à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine chimique Lubrizol. Le président de la République a par ailleurs choisi l'hebdomadaire Valeurs Actuelles pour s'expliquer sur l'immigration, le communautarisme et le voile. Bonsoir Cyril Gradziani.
Bonsoir.
Alors 12 pages d'échange entre le chef de l'État et un journaliste de Valeurs Actuelles réalisé il y a 5 jours dans l'avion de retour de sa visite à La Réunion. Et c'est un vrai choix de l'Élysée dans la forme qui peut surprendre Cyril.
Ah oui, là c'est plus la forme qui interroge que le fond. Donner une interview à Valeurs Actuelles ou selon l'Élysée échangé avec l'hebdomadaire. Le résultat est le même. La prise de parole du chef de l'État dans une publication, disons, pour le moins très conservatrice, fait débat, a fortiori pour parler immigration ou encore laïcité. À l'Élysée, on justifie ce choix en expliquant que le président de la République a souhaité défendre sa vision républicaine et humaniste de la nation au sein d'un journal dont le lectorat ne partage pas nécessairement ses idées. Plusieurs voix se sont élevées contre cette décision de s'adresser à Valeurs Actuelles. SOS Racisme, pour qui le rôle du chef de l'État est d'assurer la cohésion nationale, ce qui ne passe en aucun cas par des clins d'œil appuyés à un électorat qui la tient pour impossible et qui rêve de la détruire.
Bon, et sur le fond à présent, Cyril.
Emmanuel Macron clame qu'il lutte de toutes ses forces contre le communautarisme. Très discret sur ce sujet jusque-là, le chef de l'État en profite aussi pour dénoncer l'humiliation subie par cette maman voilée à Besançon. Mais pour le président de la République, le problème ce n'est pas elle, mais les enfants qui sont déscolarisés. Il insiste aussi sur la nécessité de mieux lutter contre l'immigration illégale en réduisant les délais d'instruction des dossiers du droit d'asile ou les abus de l'aide médicale d'État, du et en même temps macronien, braconné sur les terres du Rassemblement National tout en essayant de montrer un visage humaniste, un périlleux travail d'équilibriste.
Cyril Gradziani. 48 policiers signalés pour radicalisation au sein de la préfecture de police de Paris. C'est l'un des chiffres dévoilés tout à l'heure par le préfet de police de Paris, Didier Lallement, devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attaque de la préfecture de police de Paris. 4 morts le 3 octobre dernier. Parmi ces 48 cas signalés, 33 l'ont été après l'attaque et 7 policiers ont été désarmés depuis ce 3 octobre. L'octogénaire suspecté d'avoir blessé 2 personnes dans son attaque contre la mosquée de Bayonne devrait être présenté à un juge tout à l'heure en vue d'une mise en examen pour tentative d'assassinat. Selon le procureur de la République de Bayonne, il souffre d'une altération partielle du discernement, mais sa responsabilité pénale reste engagée. Le parquet antiterroriste n'est pas saisi.
Il est 18h08 sur France Inter. En Allemagne, il n'y avait aucun doute sur le caractère de l'attaque de Halle au début de ce mois.
Oui, un sympathisant néo-nazi qui a tué 2 personnes par balle dans la rue après avoir échoué à pénétrer dans une synagogue en plein Yom Kippour. Le gouvernement allemand vient de proposer toute une série de mesures pour mieux lutter contre les violences d'extrême droite, Ludovic Piétonu.
Cela faisait un an déjà que le gouvernement promettait de renforcer la loi, celle considérée par certains en Allemagne comme déjà trop restrictive, une entrave à la liberté d'expression et d'opinion, une loi en vigueur depuis bientôt 2 ans et dont la France s'est tout récemment inspirée, et qui consiste en une forte amende pour les réseaux sociaux qui ne supprimeraient pas un contenu haineux 24 heures après son signalement. À l'avenir, ce seraient les plateformes elles-mêmes qui devraient supprimer et signaler ce contenu aux autorités et en livrant à la police les adresses IP des auteurs de ces paroles de haine ou de ces menaces de mort. Le gouvernement allemand veut aussi s'attaquer aux insultes, monnaie courante dans un environnement anonyme comme Internet. Les sanctions seraient renforcées. Le projet de loi prévoit aussi un plus grand contrôle des armes pour mieux connaître qui les achète et qui en possède et en interdire la vente à des personnes sous surveillance considérées comme extrémistes. Sauf que dans le cas de la récente fusillade de Halle, l'homme avait fabriqué lui-même ses armes, une autre achetée illégalement sur Internet. Dans un autre cas, avant l'été, l'assassin d'un homme politique local n'avait pas de port d'armes. Enfin, la loi promet de mettre plus d'effectifs pour surveiller Internet et ses mouvances néo-nazies de plus en plus actives dans le pays, ainsi que des effectifs de police pour protéger les élus locaux qui font très régulièrement ici l'objet de menaces.
Ludovic Piétonu, correspondant de France Inter en Allemagne, en direct de Berlin. Merci beaucoup. Fiat Chrysler Automobile réunit son conseil d'administration, évidemment au sujet du très probable rapprochement du constructeur automobile italo-américain avec le français PSA. L'un des deux groupes, les deux groupes d'ailleurs, confirment avoir engagé engager des discussions. L'officialisation pourrait se faire dès demain pour donner naissance à ce qui serait le numéro 4 mondial du secteur. Fiat Chrysler Automobile a certes longtemps été en négociation avec Renault jusqu'au retrait de l'offre de fusion en juin dernier, mais le rapprochement entre Fiat et PSA avait déjà été évoqué et la relation pas si récente que cela, précision à Rome d'Olivier Tosseri.
Pour signer le mariage du siècle dans le secteur de l'automobile, Fiat revient à son premier prétendant qui reste français. Après les négociations qui ont échoué avec Renault, le groupe italo-américain renoue celle qui avait été suspendue mais jamais abandonnée avec PSA. Les deux constructeurs avaient étudié à fond en mars dernier les synergies potentielles. Ils se connaissent bien et collaborent déjà depuis plusieurs décennies dans la construction d'utilitaires et de grands monospaces. L'opération qui pourrait engendrer la création d'un géant de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière et stratégique aussi bien pour Peugeot que pour Fiat. Le français pourrait pénétrer le marché américain sur lequel il est pour l'instant absent. Présent en Chine, il ouvrirait les portes de l'Asie à l'italien et mettrait à sa disposition ses compétences en matière de voitures électriques. Peugeot pourra également faire ses débuts dans la gamme de voitures de luxe grâce aux marques Alfa Romeo et Maserati qui font partie du groupe Fiat Chrysler. Mais la fusion permettrait surtout de dégager des ressources pour l'innovation indispensable pour demeurer compétitif dans un secteur automobile en pleine mutation et consolidation. Rome, Olivier Tosseri, France Inter.
À la SNCF, le mouvement de grève au technicentre de Châtillon pour la maintenance des trains se poursuit, mais 8 TGV Atlantique sur 10 circulent à partir de demain et tout le week-end de la Toussaint. Par ailleurs, une semaine après les inondations qui ont endommagé le réseau, le trafic des trains entre Agde-Sète dans l'Hérault reprend demain. Entre Béziers et Neussargues dans le Cantal, ça sera samedi prochain. En revanche, la liaison entre Agde et Béziers ne rouvrira que le 25 novembre, notamment pour tous les TGV en direction de Perpignan ou de Toulouse.
Elle incarnait le combat d'une mère.
L'affaire de Montigny-les-Metz, en 1986, deux petits garçons de 8 ans tués à coups de pierre le long d'une voie ferrée. À Chantal Bénin, la mère de Cyril, l'une des deux victimes, est morte la nuit dernière à 75 ans d'un cancer. Bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir.
L'affaire a été résolue grâce à sa ténacité avec la condamnation à Francis Aulme à la réclusion criminelle à perpétuité. C'était en décembre dernier.
Oui, on avait appris à la connaître, Chantal Bénin, cette petite femme ronde, toujours élégante, les cheveux blonds coupés courts, devenue l'incarnation du combat d'une victime pour la vérité. Car c'est d'abord Patrick Dils, on s'en souvient, qui avait été condamné à tort pour le double meurtre. Après l'acquittement de Dils en 2002, la justice aurait aimé oublier ce fiasco, mais grâce à la ténacité de Chantal Bénin et de son avocate Dominique Beaupetit, la piste Francis Aulme est relancée en 2007 pour aboutir 11 ans plus tard à la condamnation du tueur en série pour le double meurtre de Cyril et d'Alexandre. Écoutez Chantal Bénin en 2017.
J'ai promis à mon fils que jusqu'au bout, je ne céderai pas. Chaque fois, je vais au cimetière. Je dis, Cyril, maman va se battre. Des fois, je dis, oh, tiens, tu serais peut-être mariée, tu aurais peut-être des enfants, je sais pas où tu habiterais, ce que tu ferais. Ah, si, je pense à tout ça, moi. On peut pas oublier, surtout dans les, comment il est mort. Je l'ai pas vu, mon Cyril. Hein. Ça nous a été interdit. Hein. On nous a dit, gardez l'image comme quand il vous a quitté. Hein.
Bouleversante à la barre, Chantal Bénin était une femme discrète, très seule aussi, obnubilée par ce combat judiciaire qu'elle aura mené presque jusqu'au bout. Le pourvoi en cassation de Francis Aulme sera examiné le 22 novembre prochain. Et pour la première fois, Chantal Bénin ne sera pas dans la salle d'audience.
Merci Corinne Audouin. Gaël Monfils qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de tennis de Paris en battant un autre Français, Benoît Paire. Relever la tête, ne plus y penser, enfin essayer, c'est ce que va faire l'OM ce soir, trois jours après la gifle reçue au Parc des Princes, 4-0 face au PSG en championnat, Marseille en Coupe de la Ligue, ce soir la toute dernière d'ailleurs puisque la compétition ne sera pas reconduite la saison prochaine, un 16e de finale face à Monaco, Laurent Grollet.
Pas facile de se remettre dans le sens du vent après avoir subi une tempête de force 4 au Parc des Princes. Alors avant de mettre le cap sur Monaco, l'entraîneur marseillais veut rapidement tourner la page d'un dimanche cauchemar, André Villas-Boas.
Ce match est fini. Maintenant, notre à la Coupe de la Ligue et à Ligue 1. On a déjà parlé suffisamment de ce match. Il est déjà fini. Maintenant, on joue seulement Paris Saint-Germain en avril. Et bon, c'est fini. Ça m'intéresse rien de PSG.
Cette fois, en Coupe de la Ligue, c'est Monaco, un adversaire à la portée des Marseillais. En tout cas, André Villas-Boas note une différence fondamentale avec le Paris Saint-Germain.
La différence de qualité des équipes, peut-être.
Oubliez le grain parisien aussi pour Dimitri Payet.
Bah, le moral forcément est affecté. 4-0, c'est jamais facile à digérer.
Le maître à jouer de l'OM revenu dimanche à la compétition après 4 matchs de suspension se souvient qu'en début de saison, l'OM est allé s'imposer en terre monégasque 4-3. Alors, bis repetita en Coupe de la Ligue.
Bah, c'est toujours un match où il y a des buts. que ce soit là-bas ou ici. On a vu au dernier match, il y a eu beaucoup de buts. Après, c'est vrai que c'est pas le même Monaco. Donc, il faudra le jouer comme on a joué le premier match, en lâchant les chevaux, en essayant de marquer des buts et de se qualifier.
Marseille, Laurent Grollet, France Inter.
Et Monaco-Marseille, 16e de finale de la Coupe de la Ligue, c'est ce soir, 21h05.
Et c'est noté, Estelle Schmitt et le journal. Merci beaucoup Estelle, on se retrouve tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Ce soir, on s'intéresse à Libra, la crypto-monnaie que Facebook veut lancer, qui irrite le Congrès américain, mais pas seulement. On verra si l'affaire est déjà morte. Le bruit du monde ce soir est en Suisse, et puis le téléphone sonne. Tiens, je vous le remets en tête, on parle réforme de l'assurance chômage. Ce soir, révolution peut-être même de l'assurance chômage, qui perd et qui gagne, les indépendants, les démissionnaires, les indemnisations, les droits rechargeables. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrées. Allez-y avec vos questions, quelle que soit votre situation. On en parle ce soir avec un syndicat, avec un représentant aussi du patronat. Et donc autour de vos vrais cas concrets, ça se passe comme d'habitude au 01 45 24 7000. L'œil sur le ciel juste avant, capuche s'il vous plaît.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et Jean-Pierre Hameau, les pluies sont soutenues dans l'ouest ce soir.
Oui, effectivement, la perturbation arrivée cet après-midi en Bretagne est plus organisée que ces derniers jours. Les pluies associées sont soutenues. On prévoit un cumul de précipitations d'environ 40 mm d'ici ce soir entre la Bretagne et la Basse-Normandie. Demain, cette perturbation va continuer son chemin vers les frontières de l'est. On surveillera une évolution orageuse entre Corse et continent en cours d'après-midi. Mais vous apprécierez quand même le retour d'éclaircies entre l'ouest et le sud-ouest. Elles seront plus agréables en vous rapprochant des côtes atlantiques.
Allez, quelques températures, comme d'habitude, pour la route.
Eh bien, au lever du jour, elles seront très fraîches. Dans le nord et le nord-est, prévoyez 2 à 6 degrés avec le retour des petites gelées au sol. Les maximales évolueront entre 11 et 22 degrés du nord au sud, avec 11 à Lille, 13 dans la capitale, 15 à Lyon, 19 à Marseille, 20 à Bordeaux et 22 à Ajaccio.